En partant de ce que les Écritures affirment, elles affirment que Dieu n'est pas là-haut sur un nuage en attendant que les choses se passent. Il est en mission et il nous invite à entrer dans sa mission. Il nous invite à inscrire notre histoire dans son histoire afin que nos histoires prennent tout leur sens. Nous avons vu que la mission est non seulement la prérogative de Dieu, mais c'est aussi quelque chose qui nous est enseigné par Dieu en Christ comme modèle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus, à ses disciples. Et nous avons vu hier que il nous faut à chaque fois revenir au modèle que Jésus nous laisse, qui est le seul modèle qui transcende les cultures et qui transcende le temps. Or, l'une des caractéristiques de sa mission, c'est qu'elle est incarnationnelle, c'est qu'il est venu habiter au milieu de nous, il est venu planter sa tente, et nous devons faire de même. Nous devons être ce peuple rédempteur qui habite au milieu de la cité, non pas pour faire l'avocat de la cité de Dieu, mais pour démontrer la puissance de Dieu dans la cité. Et nous sommes appelés à racheter le temps, à saisir toute occasion pour présenter aux hommes le message de l'Évangile. Nous avons vu cet après-midi, pour ceux qui étaient là, que l'une des conditions pour répondre à l'appel de Dieu sur nos vies et entrer pleinement dans sa mission, c'est d'avoir entendu celui qui dit qui ira, qui sera pour nous. Et pour l'entendre, il faut avoir dit malheur à moi. C'est le seul qualificatif de la mission. Admettre sa propre banqueroute. Admettre que nous ne pouvons pas le faire. Et c'est justement là où Dieu nous veut. Car si la mission était la prérogative des hommes, qui en aurait la gloire? La condition pour qualifier à la mission de Dieu, c'est d'admettre sa banqueroute et de dire « Je suis perdu et je ne peux te servir et je ne suis pas qualifié. » Et lorsqu'on dit ces mots-là, alors Dieu dans sa grâce touche nos lèvres et il nous rend purs et il nous qualifie et nous dit « Maintenant, je peux t'utiliser. » Maintenant, tu peux être le vecteur de la grâce. Maintenant, tu peux être un mendiant de la grâce et implanter une église qui sera le club des mendiants de la grâce. Maintenant que tu es un inapte sanctifié, tu pourras créer la confrérie des inaptes sanctifiés, qu'on appelle l'église. Va, je suis avec toi. Mais pour s'écrier malheur à moi, il faut avoir été saisi par la vision de Dieu. Et c'est là que tout commence et c'est là que tout revient. Est-ce que nous voyons Dieu souverain sur toute chose, y compris sur nos histoires? C'est une vraie question. Est-ce que Dieu est souverain sur mon histoire? Je suis inquiet, mes amis, parce que je vois dans certaines de nos églises évangéliques un cancer qui ronge le corps, le cancer de l'athéisme fonctionnel, où on a beau croire avec notre cœur et dans notre tête que Dieu existe, mais dans notre vie de tous les jours, on agit comme si Dieu n'existait pas. Et on se comporte comme des athées. Sommes-nous vraiment convaincus que Dieu règne, y compris dans notre travail, dans notre maison, dans notre foyer? Sommes-nous saisis par sa souveraineté dans tous les aspects de notre vie? Ou avons-nous très gentiment compartitionné Dieu dans une boîte qu'on appelle Église? Et qu'on ouvre seulement le dimanche. ce cancer est mortel. Et je crois qu'il nous faut toujours revenir à cette vision d'Ésaïe. Est-ce que je vois Dieu régner sur mes circonstances? Est-ce que je vois le pan de sa robe traîner jusqu'à dans mon salon? Parce que si nous n'avons pas cette vision de Dieu, alors nous ne dirons pas « je suis malheureux » et nous ne pourrons pas qualifier pour dire « me voici ». Vous comprenez? C'est ça la mission de Dieu. Il est devant et nous suivons. Et c'est lui qui a tous les droits. Je voudrais juste revenir sur trois éléments qui me semblent des invariants de l'implantation d'église. Et ce sont des éléments que vous avez trouvés et que vous trouverez dans les cinq portraits qu'on a vus. Et je prendrai le passage de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, les versets 2 à 6. Comme fil rouge. L'église de Colosse a été implantée par Epaphras. Voilà, donc si vous cherchiez un nom pour un fils, Epaphras, Deutéronome, Chronique 1, des choses comme ça. Epaphras est un implanteur qui a été formé au centre de formation régionale pour implanteurs de Éphèse, dans l'école de Tyrannus, par Paul lui-même, qui était son coach. Et l'église d'Éphèse avait un centre de formation, et à partir de ce centre de formation, ils ont rayonné sur toute l'Asie mineure. Paul n'a jamais implanté cette église, pourtant il lui écrit et il lui rappelle les principes de base. Et je trouve dans ce passage-là les clés, quelque part, de principes invariants d'une communauté naissante. Persévérez dans la prière, dit-il, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Il continue, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Et il conclut, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous avez ici trois principes d'une communauté qui s'implante et qui évangélise dans la cité. La persévérance dans la prière, une conduite sage envers ceux du dehors et une capacité à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Ce qui donne un plan en trois parties. Merci. Persévérer dans la prière, premier point. Persévérer dans la prière. Il est étrange que nous assumions que les gens sachent prier. Il est encore plus absurde de penser qu'un nouveau chrétien sache prier. Est-ce le cas ? Est-ce le cas ? Persévérer dans la prière. Si Paul demande à cette communauté naissante de persévérer dans la prière, c'est bien parce que la prière est tout sauf naturelle. Mais elle est efficace. Elle est efficace. Persévérer dans la prière. Si vous deviez noter votre vie de prière communautaire. Pourquoi je dis prière communautaire ? Parce que cette injonction est à l'Église. C'est une injonction plurielle. C'est pas un vous de politesse. C'est vous en tant qu'Église. Persévérez dans la prière. Si vous deviez donner une note à votre vie de prière en communauté, entre 1 et 10. Et on ne le fera pas. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Je pense que souvent, quand il s'agit de mettre en place une discipline de vie de prière et d'accompagner un projet d'implantation dans une vie de prière, on confond prier plus avec prier mieux. Et John Berg dit la chose suivante, il y a une différence fondamentale entre se former à faire quelque chose et essayer de faire quelque chose. La transformation spirituelle que nous souhaitons tous n'est pas une question d'essayer encore plus, mais de se former mieux. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Parce que si vous dites, en tant qu'Église, nous devons prier plus, certes, mais plus combien ? 1 heure ? 2 heures ? 3 heures ? 5 heures ? 7 heures ? On peut toujours prier plus. Alors, à partir de combien est-ce que c'est assez ? Et John Harbert dit, si vous attaquez le sujet des disciplines spirituelles sous cet angle d'essayer plus, vous n'allez jamais réussir. Parce que vous ne savez pas où mettre la barre. Il dit, apprenez à prier mieux. N'est-ce pas étrange que c'est ce que les disciples ont demandé à leur maître ? Apprends-nous à prier. À prier mieux. Pas à prier plus. À prier mieux. Et dans la formation des disciples de Jésus en tant que maître, il leur a appris à prier et à persévérer dans la prière. De longues nuits, même qu'ils s'endormaient. Lorsque nous avons commencé ce projet d'implantation, nous avons pris ce passage extrêmement au sérieux. Et nous nous sommes demandés, en tant que communauté naissante, qu'est-ce que cela voulait dire pour nous de prier mieux et de persévérer dans cette prière ? Alors, n'ayant pas vraiment beaucoup de modèles, on s'est dit, on va commencer à prier tous les matins. Tous les matins. Et on a commencé à faire cela. Toute l'équipe d'implantation. À 7 heures, le matin. Et nous avons prié, tous les matins, intercédé pour les gens, nos contacts, les gens dans la ville, on a prié pour les politiques, on a béni la ville, on a dit Seigneur que ton royaume, on a prié pour l'unité dans l'équipe, on a prié pour la croissance, on a dit Seigneur montre-nous ce que tu es en mission dans la ville aujourd'hui, on veut te suivre, montre-nous les personnes que tu as préparées. Et à un moment donné, il y a des choses étranges qui se sont passées. Nous prions pour des gens qui soudain viennent eux-mêmes au rayon de prière et qui ne sont pas convertis. Vous dites, c'est le monde à l'envers. Mais vraiment, on est dans un monde de chaos, personne ne respecte plus rien. C'est lamentable. Tu dis non, Carole, c'est pas pour toi la réunion de prière. Est-ce que tu peux sortir de la réunion de prière, comme ça on peut prier pour toi ? Ok, alors exceptionnellement, reste. Mais même dans l'équipe d'implantation, ça en a énervé quelques-uns, en se disant, ah, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu leur dises, tu ne peux pas venir à la réunion de prière. On ne peut plus prier pour eux personnellement. Alors j'ai dit, je ne sais pas, moi peut-être que le fait qu'on persévère dans la prière, j'y réponds, je ne sais pas. Ouais, pas bête. Ouais, mais alors, comment est-ce qu'on fait ? On peut plus prier pour les gens, ils sont là. Je sais pas, là, on n'a qu'à faire des prières pour le staff en plus. Bon. Six mois plus tard, alors qu'on commençait à avoir plus en plus de monde qui venait à la réunion de prière, il y a un stagiaire de Vaux-sur-Seine qui vient pendant un mois. Et le gars, il s'est éclaté. Il a trouvé son bonheur. Et c'était un stage super. À la fin, il nous a dit, il y a juste un truc qui bug. Vous commencez la journée en prière, vous devriez la terminer en prière. Bon. Ok. Bon. Ok, on va dire que ça fait partie de prier mieux. Ok, ça va dans le sens de persévérer. Ok. Bon. Allez, on ajoute. Donc on a fait 18h15. Et après on a découvert un truc de malade. C'est que en fait, il y a une certaine tradition en France, on appelle ça les laudes et les vêpres. Vous voyez le truc ? c'est que c'est des réunions de prière le matin et puis le soir. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, parce que nous, elles sont évangéliques, les lots des lévêques, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une tradition, en fait, dans l'histoire, de gens qui se lèvent très tôt le matin et le soir, ils commencent la journée, ils terminent la journée. Et alors, c'est assez extraordinaire, parce que le soir, en fait, on apprend une discipline qui est celle d'être attentif à la présence de Dieu tous les jours. Donc, le soir, on pose une question et on dit « Où était Dieu aujourd'hui ?» Juste une question. Un chant, une question, deux prières, terminé. C'est tout simple, hein? Ça dure 15 minutes. Où était Dieu aujourd'hui? Et c'est fou l'amnésie collective qu'on a. Mais c'est absolument infernal. Je veux dire, le matin, on prie. Les sujets de prière, généralement, la plupart du temps, sont répondus avant 11h. Je te promets, hein, j'ai fait une fois une étude. Avant 11h, la plupart des sujets de prière ont été répondus. Bon, après tu manges, et ensuite... Puis t'arrives à 18h, où était Dieu? Alors quand est-ce qu'elle a commencé la journée déjà? Qu'est-ce que j'ai fait après-midi? Allez, alors ouais, ce matin on a prié pour ça, ben, comme d'habitude, elle a répondu avant 11h. Ouais, bon, classique quoi. On essaie de lutter contre l'Alzheimer spirituel, oui. On est un peuple, on aime prier, mais alors on aime surtout oublier les exaucements, quoi. C'est fou! De sorte que nous avons ajouté une discipline spirituelle qui est celle de se rappeler. Donc le vendredi soir, on chante toujours la même chanson, c'est « Compte les bienfaits de Dieu ». Vous connaissez le truc? On chante ensemble « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu, mais tout le grand est Dieu. Tu verras en adorant combien le monde en est grand. Alors, si vous regardez dans les cantiques, en fait, il y a quatre strophes. Alors, on fait un jeu. C'est-à-dire, entre chaque strophe, il faut dire trois bienfaits dans la semaine. La panique générale. Alors, t'en as maintenant, c'est vite, ils ont des carnets de bord, et donc ils notent les bienfaits, ils trichent. Alors, ils viennent le vendredi, c'est plus bon. Allez, mec, j'en ai 250. Qui lui est? Moi, mais c'est bon, t'en as déjà dit trois. On oublie que Dieu est là. C'est fou! Ça m'énerve! Je sais pas si ça vous énerve, mais ça m'énerve profondément! On oublie que Dieu est là. On oublie qu'il est en mission, on oublie qu'il nous précède, on oublie qu'il nous bénit, on oublie qu'il nous protège, et on vit comme s'il n'était pas là. C'est infernal! Peut-être que c'est pour ça qu'il faut qu'on persévère dans la prière. Plusieurs fois par jour. Un de mes mentors, il fait sonner son bip-bip sur sa montre toutes les 3 heures. Et quand ça fait bip-bip, il s'arrête. 2 minutes. Et il prie. Il dit, Seigneur, excuse-moi, j'oublie que tu n'étais pas là. Enfin, voilà. Je reprends, t'es là, tu règnes, je règne pas, alléluia. Et il reprend sa journée. Il est obligé de le mettre tous les 3 heures, parce qu'il oublie. Et pourtant, c'est le beau-frère de Billy Graham. C'est un homme de Dieu remarquable. Touché des millions de personnes. Et lui, il dit, je dois apprendre à être attentif. Dans ce passage, il dit de prier pour 2 choses. Il dit de prier avec action de grâce, pour ce que Dieu a fait, mais aussi ce que Dieu va faire. Alors, c'est un effet extraordinaire. Lorsqu'on se souvient de comment Dieu a répondu, tout d'un coup, ça nous booste. En disant, mais il va continuer à répondre. Et donc c'est pour ça qu'on prie avec action de grâce. Et la deuxième des choses, il dit prier pour nous. C'est qui nous? Ben, c'est Paul, c'est Timothée, c'est Epaphras. Ce sont des implanteurs. Ce sont des évangélistes. Parce que Dieu a donné dans sa grâce, certains comme implanteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs enseignants. Et l'église locale a la responsabilité d'identifier ces personnes, de reconnaître l'appel sur leur vie, de reconnaître ce ministère-là, et de prier pour eux afin que Dieu continue à ouvrir des portes dans leur ministère. Et là, vous avez une évangéliste grave, Caroline. Infernale, Caroline. C'est infernal. Faut aller la chercher. Elle est tout le temps avec les non-chrétiens. Mais c'est génial! Et elle arrive à faire des trucs que certains de nous, on n'arrive pas à faire. Les évangélistes, ils rentrent dans un amphi et ils voient plein de non-chrétiens, ils sont « Ah, génial !» Alléluia! Ok, alors, mini. Toi, tu t'assois à côté. Alors, ça va? Non. L'un des autres rentrait en disant « Purée, pas de chrétien. Oh, la dèche Oh, ça va être une année mortelle. » Puis l'autre à côté, « Ah non, je ne comprends pas de quoi tu parles. Hein. » L'évangéliste dans la salle de culte, pendant que les gens chantent, il compte les chaises vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, bougez pas, continuez à chanter, je reviens. Il sort et puis... Le pasteur, lui, il est super content parce que son église est remplie à 80%. Et puis l'évangéliste, il râle parce qu'il y a encore 20% qui est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée des tensions. Peut-être que c'est pour ça que souvent les évangélistes ne sont pas vraiment reconnus dans les églises locales. c'est des fléaux. Mais des bons fléaux. Accordés par Christ dans sa souveraineté à l'église locale. Certains ont un don, un ministère, une vocation pour aller implanter des églises là où ils n'en ont pas. Là où il n'y en a pas. Une capacité à venir dans un lieu, dans une ville où il n'y a rien, et de dire ici, dans un an, on aura une communauté de vie. Là où d'autres diraient, mais t'es malade. Je veux dire, il y a tout, il y a du combat spirituel, il y a tout sur des gens qui veulent recevoir l'évangile. Et l'implanteur a cette capacité de voir l'église là où elle n'est pas. Un don de foi extraordinaire. De dire, oh mais Dieu, c'est bon, il est en mission, c'est bon, t'inquiète. Le rémanent, il est dans la ville. Il suffit juste de le trouver. C'est une chasse au trésor. Et l'implanteur emmène son équipe. C'est un petit peu les portraits que vous avez eus là. On ne fait pas d'implantation sans implanteur. Et c'est pour ça qu'à la question « où », on doit toujours réfléchir à la question « qui ». Parce qu'il faut qu'un « qui » aille au « où ». Et il y a certains « qui » ont des préférences par rapport au « où ». Il y a des implanteurs qui sont à l'aise en banlieue, il y a des implanteurs qui sont très à l'aise en province, il y a des implanteurs qui sont très à l'aise dans Paris 17e. Vous voyez ce que je veux dire ? Édouard, il est très efficace dans Paris 17e. Vous le prenez, vous le parachutez à Lens, c'est pas sûr qu'il fasse aussi bien. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il est câblé comme ça. C'est son truc. Il aime les grandes villes. Et il aime les bobos. Persévérer dans la prière. Premier principe invariant d'une communauté naissante. Et là, vraiment, je vous dis, et je vous dis, et je vous redis, et je vous redis, si vous voulez voir une église implantée, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment prendre ça au sérieux. Vraiment prendre ça au sérieux. Vraiment, vraiment prendre ça au sérieux. Alors certains nous demandent, alors comment vous expliquez que vous en êtes à la troisième vague de baptême en 2 ans? Je dis, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on prie 7 heures par semaine, en communauté. Ça, c'est ce que je peux te dire. Après le reste, je sais pas. Mais peut-être qu'il y a une corrélation entre ça un nombre de personnes que le Seigneur ajoute à l'église, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis la feuille de route. Hein. C'est marqué persévérer, on ne savait pas le faire, on a appris, on apprend à prier mieux, et après, c'est tout ce que je sais. Premier principe, persévérer dans la prière. Deuxième principe, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Un homme de prière, Ian Bound, disait que si la prière n'aboutit pas à une pensée juste et à une vie droite, tout cela n'est alors qu'une farce. Autrement dit, lorsqu'une jeune communauté ou une équipe d'implantation persévère dans la discipline de la prière, Dieu lui-même opère un processus de transformation et de régénération au sein même de cette communauté de prière. Et des choses bizarres comme l'amour, comme la paix, comme la joie, comme la tempérance, comme la persévérance apparaissent, des fruits de l'esprit. Et cette communauté, cette équipe d'implantation persévérant dans la prière est transformée de l'intérieur, reflète progressivement la réalité de la Trinité, unité dans la diversité en communauté. C'est l'église de toutes les couleurs. Unité en communauté dans la diversité. Parce que le Père n'est pas l'Esprit, n'est pas le Fils. Et dans l'Église, il y a une diversité. On n'est pas tous pareils. Un est la main, l'autre le pied. Nous sommes différemment, mais nous sommes un corps. Et Dieu tisse lui-même et forme lui-même, déjà même à l'intérieur de la communauté d'implanteurs, cette réalité d'unité dans la diversité en communauté. De sorte que la première église est en fait l'équipe d'implanteurs elle-même. Elle est la proto-église. Elle a en elle-même l'ADN de la future église. Et cette proto-église implante elle-même une église, une communauté qui implante une communauté. Et ce qui fait que si vous avez cela dans la source, dans les effets de cette communauté qui est naissante, vous aurez diversité dans l'unité en communauté. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Dans le passage parallèle de 1 Pierre 3,15, Pierre nous dit « Sanctifiez Christ dans votre cœur. » Sanctifiez Christ dans votre cœur. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui reprennent l'idée d'une vie de sanctification, d'une vie de sainteté. Souvent les gens me disent, Raphaël, il faut être saint, mais ça ressemble à quoi être saint? Le premier mot, c'est proskuneo. 1 Corinthiens 14, 25, par exemple. L'idée qu'il nous faut totalement être soumis à la volonté de Dieu. Une soumission totale, prosternée. L'idée de refuser que dans notre communauté, il y ait des coins d'ombre, il y ait des sujets qu'on ne veuille pas aborder, qu'il y ait des choses que nous cachions dans notre Église, comme si Dieu ne le savait pas. Et il nous dit, conduis-toi avec sagesse, mon ami. Amène à la lumière tout ce qui est l'ombre. Et soumets toutes choses à la souveraineté de Dieu, y compris vos conflits, y compris vos rancœurs, votre amertume, tout cela. Amenez-le. Arrêtez de le coller sur le tapis. C'est plus un tapis, c'est des montagnes russes. Il y en a en dessous. Deuxième mot, latruo. 2 Timothée 1,3. Être totalement engagé dans la mission de Dieu. Totalement engagé dans la mission de Dieu. Dieu est en mission, y compris le lundi matin à 10h devant la machine à café, au travail. Il est toujours en mission. Et de dire, Seigneur, je ne fais pas une dichotomie, une séparation entre le séculier et le sacré, entre dimanche et lundi, tu es en mission, y compris dans mon travail, y compris dans le cœur de mon patron, y compris dans le cœur de mes employés. Seigneur, aide-moi juste à comprendre ce que tu fais dans leur vie, quoi. Tu sais que nous prions pour eux, en communauté. Montre-nous comment et où est le chemin pour toucher leur cœur. Lorsque vous avez une vie totalement soumise et totalement engagée dans l'œuvre de Dieu, vous avez quelque chose qui ressemble à de la sainteté. À de la sainteté. 100% soumis, 100% engagé. Les deux ensemble. Et dans cette réalité-là, c'est une communauté qui se conduit avec sagesse et qui sanctifie Christ au milieu d'elle. Et enfin, il nous demande de racheter le temps, de racheter le temps, de saisir toute occasion, de comprendre aussi le temps dans lequel nous vivons. Ça marche pas. C'est dommage, il y a un graphique, mais non, c'est pas. Il y a des lignes. Vous voyez les lignes ou pas? Ah, ça passe vite. Bon, c'est pas grave. Enlève. Voilà, on est sur l'autre diapo. Laisse. Nous sommes en post-chrétienté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au jour d'aujourd'hui, nous avons quasiment le contexte qui existait avant Constantin en Europe. Quasi, je dis. Avant Constantin, il y avait un pluralisme religieux. Il y avait une certaine idée de la vérité, qui était plutôt de l'ordre de la vertu. Ensuite, après Constantin, il y a une version politique du christianisme qui donne la chrétienté, avec un certain rapprochement de la culture européenne avec les valeurs de l'écriture, y compris au travers de la réforme. À partir du XVIIIe siècle, les Lumières, XIXe, XXe siècle, le mouvement de la mort de Dieu, les trois clous dans le cercueil de la chrétienté, Marx, Nietzsche, Freud, qui tour à tour vont attaquer le christianisme sous sa version économique, sous sa version philosophique et sous sa version psychologique, décrètent la mort de Dieu. Et nous sommes toujours dans cette ère-là, de la mort de Dieu. Sartre disait, et c'était prophétique, même si Dieu existe, ça ne changerait rien. Même si Dieu existe, ça ne changerait rien. Vous comprenez le décalage entre un discours comme cela et la réalité de la France telle qu'elle se trouvait au temps de Pascal. Rien à voir. Pour nous, le père de l'Église voulait démontrer l'existence de Dieu en disant « Mais Dieu existe et donc il change les choses ». Mais les philosophes, Descartes ayant ouvert la brèche du subjectivisme, Kant s'étant engouffré dedans, ils ont dit, vous savez quoi? Peut-être que Dieu existe, mais de toute façon, si Dieu existe, il est de l'autre côté du rideau, et on ne peut pas lui parler. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Et on est dans une espèce de déisme. On veut bien, d'accord, on veut bien. De toute façon, je veux dire, si vous dites que Dieu existe, vous tapez les uns sur les autres, ça donne la guerre de 100 ans, c'est impossible de construire l'Europe comme ça. Donc on va se mettre d'accord, on va dire que Dieu existe, mais que de toute façon on ne peut pas le connaître. Voilà, comme ça arrange tout le monde. Et Kant a redéfini la morale chrétienne en disant, ne fais pas ce qu'autrui ne voudrait pas que tu fasses à toi. T'as compris? Oui. Bon, bah c'est bien. Et tout le monde a applaudi, les protestants en premier, en disant c'est formidable. Tantre, un disciple de l'église, tu parles. Que dalle! Il a pompé sur Moïse, il a oublié de mettre les footnotes, les références. Tout ce qu'il a fait. Et on est dans cette réalité-là. Alors on nous dit, ouais, c'est bien, vous croyez en Dieu, c'est super, formidable. Mais de toute façon, Dieu, je veux dire, il est là-haut, il ne peut rien faire pour toi. Sartre disait que la vie, c'est une pièce de théâtre, c'est une grande scène, et il faut qu'on choisisse un metteur en scène. Voilà. Parce que le metteur en scène, il est parti. Il est occupé, il est là-haut. Mais quand vous avez la réalité d'un peuple de Dieu qui se conduit avec sagesse, totalement soumis à sa volonté, totalement engagé dans son œuvre, et qui vit au centre de la ville, et qui au travers de sa présence démontre la réalité du royaume de Dieu, moi je vous dis, les gens arrêtent de dire que Dieu ne change pas les choses. Et c'est pour ça qu'ils viennent au rayon de prière. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre dehors. Parce qu'ils disent Dieu est là au milieu de vous. Et moi je veux Dieu. Et ils ne gobent pas à Sartre. Parce que la réalité de l'Église qui naît au milieu d'eux démontre tout le contraire. Oh, mais pourquoi est-ce que nous nous priverions de l'apologétique de l'Église? C'est ce qui a attiré les premiers chrétiens. La réalité de Paul, quand il prêchait l'Évangile, c'était une société de caste, profondément injuste. On disait, toi tu es philosophe, alors tu n'as pas le droit de travailler. Toi tu es dans l'armée, bon. Toi tu es prêtre, mythomane. Toi tu es ceci, toi tu es cela. Et puis en bas de la... Hein, il y avait les pauvres. Profondément injuste. Les femmes, malheur aux femmes. Est-ce que les femmes ont le droit d'être sauvées? Oh, grand débat. Grand débat parmi les philosophes. Le statut de la femme. Oh, compliqué celui-là. Et le christianisme qui vient et qui démontre la réalité d'une communauté, d'une contre-culture, d'une société qui est fondée non sur le mérite, mais sur la grâce. Et qui fait place à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au milieu d'elle. En disant, vous voulez voir ce que ça ressemble à une vraie société? Regardez, ça c'est une société. Ça, c'est l'humanité rachetée. C'est la vraie humanité. Et c'est pour ça que cette poignée de disciples qui ont implanté les églises ont retourné l'Empire romain en l'espace de 2 siècles. De minorité à majorité, à cause de l'apologétique d'église naissante qui était la démonstration que tu peux vivre la vie différemment. Et que Dieu existe et qu'il change la réalité des choses. Troisième et dernier principe, sachez comment répondre. Sachez comment répondre. Dans l'évangile de Luc, on nous parle de Jésus et on dit de lui que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. C'est extraordinaire, la capacité de Jésus de répondre aux gens dans une sagesse profonde et infinie. Il nous faut savoir répondre aux gens et donner raison de l'espérance qui est en nous. En tant qu'église, en tant que communauté. Lorsque les gens lui disent, mais pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Pourquoi est-ce que vous êtes différents? Pourquoi est-ce que chez vous il n'y a pas de racisme? Pourquoi est-ce que chez vous il n'y a pas de jeunisme? Il faut qu'on puisse leur dire. Pourquoi? Mais notez que Paul assume une chose importante. S'il nous demande de savoir comment répondre, ça veut dire que les gens nous posent des questions. Est-ce que les gens nous posent des questions? Est-ce que les gens nous posent des questions? Est-ce que les gens nous posent des questions par rapport à notre foi dans notre travail déjà? Mais est-ce que les gens nous posent des questions Est-ce que l'Église rayonne de manière telle dans la cité que les gens nous disent, mais attendez voir, c'est quoi votre truc là? Est-ce que les gens sont interpellés? Si nous vivons la réalité de l'Église, la puissance du royaume de Dieu s'exprime au travers de cela, ça se voit. Et ça suscite des questions. Ça devrait susciter des questions. Ça devrait susciter des questions. Il nous faut aussi comprendre que pour beaucoup de personnes, la conversion est un processus. Est un processus le long d'un continuum. On appelle ça l'échelle d'Engel, un missiologue qui disait que lorsqu'on approche quelqu'un, par exemple, qui a moins 10, qui a conscience du surnaturel, lorsqu'on lui présente l'évangile, il est très rare, il se peut, mais il est souvent rare, qu'il passe de moins 10 à 0, la conversion et la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'agace quand on rencontre quelqu'un dans la rue, quand on fait un sondage, on lui prêche l'évangile et on n'est pas déçu qu'il plie le genou et qu'il accepte le Seigneur. Il faut lui laisser du temps. C'est révolutionnaire comme message. Si tu me parles d'un Dieu, mais moi je croyais que Dieu il était de l'autre côté du rideau, toi tu me dis qu'il change ta vie. Hein, tu crois que tu dis que toi tu parles à Dieu? Non, on m'a dit que c'était impossible de parler à Dieu. C'est quoi? C'est un numéro spécial? T'as un forfait? C'est une carte? Non? C'est free? C'est... Et les gens ont besoin de temps. Et la communauté est là pour accueillir ces gens. C'est vous qui disiez des athées, des chrétiens et des non-chrétiens qui cheminent ensemble. Mais dans notre communauté, ils ont besoin de temps, on a besoin de leur donner l'espace. Vous savez quoi? On donne même la possibilité aux gens de poser des questions pendant le culte. C'est dangereux ça, hein? Ouh, c'est dangereux, hein? Quand en tant que prédicateur, vous dites, si vous n'avez pas compris, vous levez la main. Putain, rien qui fait. Oui, je te vois. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Non, j'ai juste une question. Ok, donc tu dis que Dieu existe, il est tout puissant, d'accord. Ok, pourquoi le mal? Oh la vache. Oh, ok, le mec il me torpille là. Oh, il a fait exprès. Hein. Non, il n'a pas fait exprès. C'est une vraie interrogation. Qu'est-ce que je fais, hein? Je dis, écoute, pas de question. Je dis, mais merci. Merci de poser la question, c'est une réalité. Comment est-ce que toi tu comprends la chose? Ah ben, je sais pas, moi je l'accepte. J'arrive pas à réconcilier le fait que le mal existe, que Dieu existe, mais je suis obligé de le reconnaître et je pense que quelque part je l'accepte. Je dis, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'ai même pas eu besoin de répondre. Alors j'ai fait comme Jésus, je pose des questions quand il me pose des questions, tu vois. Bon, mais que faut-il faire? Pourquoi m'appelles-tu bon? Ben, je sais pas. Parce que quand t'es bon, tu vas au ciel, non? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Est-ce que nos communautés, est-ce que nos églises sont des espaces où les gens peuvent respirer et cheminer et descendre l'échelle? Ou est-ce que pour rentrer dans nos églises, il faut, à l'entrée, vous voyez, je vais vous montrer tout le pédigré. Et moi, j'ai du 100 millilitres, hein. Donc, pédigré, m'en parlez pas, hein. Parce que nous, c'est des rondes serviettes, hein, dans le casier de l'église, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et Manu Pelsi, c'est le siège 44, hein. Depuis 2 siècles. Tu ne touches pas au siège 44. C'est le siège des Pelsi. Et le rond de serviette, il est à l'entrée. Avec le nom de toutes les familles. Et quand tu rentres, c'est. Okay. Comment tu t'appelles? Hansenberger. Pouf, c'est pas de chez nous, ça. Oh, Pierre Lassé, ils invitent tout le monde, c'est tous les experts généalogiques et tout. Hansenberger, on va bien trouver quelqu'un là. Hansenberger, ils remontent ces gens-là, Napoléon et tout. Oh, ils bifurquent dans tel arbre généalogique, et puis au bout de 2 heures. Ah, bon, c'est le petit oncle, du grand oncle, du petit cousin, de. On peut faire entrer. Des fois, c'est un peu comme ça. Des fois, on a un peu de méno en nous, quoi. On se dit, attention, hein, faut faire gaffe, hein, faut pas que le loup il rentre dans la bergerie. Mais attendez, mais le loup, c'est pas le mot chrétien. Faut pas changer, faut pas se tromper de combat. C'est des boucs, c'est pas des loups. Ah, dis que ça sent mauvais. Bah ouais. Bah ouais. L'église, c'est l'étable. Ah ouais, mais chez nous, c'est tout le temps propre. Ah bah ouais. Admettons-le, on est tous tordus, c'est vrai ou pas vrai? C'est la seule confrérie des imams. Alors quand un non-chrétien il rentre et puis il voit que toi tu luttes à payer tes factures, et que toi aussi tu t'énerves, toi aussi et puis tu te repens, tu t'es dit, ben tiens, tu t'énerves mais tu te repens, tiens, c'est marrant ça. Pourquoi tu t'énerves pas? Et puis tu dis, mais j'essaye de vivre comme Jésus, c'est mon maître et son esprit est en moi et quand je bourre, je rentre et il me pardonne. Ah ouais, on peut te pardonner? Est-ce qu'on crée cet espace au milieu de nous pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et puissent nous voir vivre, dire, ah mais toi, mais tu fais comment? Et toi, tu as reçu le Seigneur comment? Et c'est pas beau ça que la communauté adopte ces non-chrétiens, ces pecs, pas encore chrétiens. Et les pecs, ils appartiennent à tout le monde, Et c'est génial de les voir cheminer. Et quand ils se convertissent et qu'ils naissent d'en haut, alors tout le monde sait, ils se font des clins d'œil. T'as vu Jérôme là? Jérôme, c'est le gars avec la barbe là. T'as Jérôme, hein, Jérôme. Jérôme, il avait un temple dans son salon avec Bouddha. Et quand il venait aux réunions de prière chez nous, il prenait la position du lotus. Ah, c'est chaud patate, hein. Tu sais, pour se concentrer, tu vois. Frère et soeur, prions le Seigneur. Qu'est-ce que son truc? On lui se laisse la place, alléluia, bienvenue, etc. Le gars, il te sort après. Une heure, c'est quand même un peu long, hein, les gars. Dis moi, tu vas, à un moment donné, ça ira mieux. Et puis, un jour, comme ça, il dit, dans la réunion, il dit, bon, ok, allez, je me risque, je vais pas bien. Oh, purée, qu'est-ce que j'ai dit? Vous me jugez pas? Ben non, non, c'est normal. Enfin, nous aussi, on le dit, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Par contre, on va prier pour toi. Ah bon? D'accord. Et puis c'est une dame, c'est une sœur qui a prié pour lui, il a commencé à prier. Et là, il a pleuré, il s'est dit, mais attends, c'est la première fois qu'on prie pour moi. Qu'on m'appelle par mon prénom. Et qu'on s'intéresse à ma vie. Et qu'on demande à Dieu de me guérir, c'est la première fois. J'ai dit, mais c'est la folie votre truc. Alors il a enlevé la position du lotus et il a commencé à écouter, quoi. Et puis il continue à cheminer, et un jour, c'est pas ce qui s'est passé, dans la réunion de prière, à un moment donné, il fait « Seigneur Jésus, je t'aime !» Ouh. Quand on s'est regardé, on fait « Hop, le pape, il est passé de l'autre côté, là. Il est passé dans le positif, là. Et il a descendu l'échelle et remonte l'autre. Alors, non seulement il fait toutes les réunions de prière avec nous, mais en plus il rajoute des marches de prière. Tu vois, la nuit, on le voit avec l'évangile de Jean, il marche. Il prie pour la ville. Tandis, Jérôme, là, t'abuses, hein. C'est ok de persévérer dans la prière, mais quand même, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est incroyable. C'est nous, on convertit, ça te donne la chair de poule. Et qu'il n'était même pas né de nouveau, qu'on commence à lui balancer, vous savez, les versets par texto, vous savez, vous êtes abonné par, vous avez le fil de je sais pas quoi, là, puis on vous envoie des textos avec le verset du jour. Et alors, il y en a un qui était très intelligent, il dit, Jérôme, c'est quoi ton mobile? Hop, et à chaque fois, il lui envoie le verset du jour. Et Jérôme, il a reçu ça, il dit, ah, c'est pas mal. Bien, répondre à tous ses contacts. 4000. Bon. Alors il retourne au club de salsa et tout, puis t'as les gens qui viennent vers lui en disant « Jérôme, ton texto là, ça m'a touché là, c'est quoi ton truc ?»« Ah ben c'est la Bible. » »« Ah c'est vachement bien et tout. »« Ah ça a touché mon cœur. » Puis l'autre il dit « Ah ouais, moi aussi ça a touché mon cœur. » Et l'autre « Moi aussi ça a touché mon cœur. » Puis Jérôme il fait « Ok, ok, ouais, bon, ok, tu es là, normal, donc c'est prévu. T'as la moitié du groupe de salsa qui fait « Ah ça m'a touché mon cœur. » Et puis il y a les autres, ils font « Ils parlent de quoi ?» Il dit « Bon, écoutez les mecs, vous allez faire les étirements, moi je prends ce groupe-là. » Je me vais là, voilà, je prie pour vous. Seigneur! Et c'est la même chose qu'on fait le matin, quoi. Sauf qu'il fait dans le pot de salsa, quoi. T'as pas le droit, Jérôme? T'es pas encore passé. Non, c'est pas le droit. Bon. C'est fou! Une fraîcheur! Et il devient berger de son troupeau de salsa. Bref. Voilà, trois principes. Je crois que ça mériterait de reprendre la conversation entre vous, dans vos églises, mais aussi dans vos équipes d'implantation, en disant comment est-ce qu'on prend ça au sérieux. Voilà. Ian Bound, cet homme de prière, disait « Oh, l'homme est toujours à la meilleure l'homme est toujours à la recherche de meilleures méthodes et Dieu est toujours à la recherche de meilleurs hommes. » J'aime beaucoup ça. L'homme est toujours à la recherche de meilleures méthodes. Raphaël, dis-nous la méthode qui fera fléchir le genou de tous les Toulousiens. Et Dieu cherche de meilleurs hommes. Et James Simbala disait, mais je crois que si Dieu nous demande de faire les choses dans cet ordre-là, c'est parce que peut-être il sait de quoi il parle. Mais chose étrange, nous arrive-t-il pas de faire exactement le contraire? À savoir, on l'ouvre. Après, on se dit, ouh, il faudrait peut-être que notre vie colle à cela, mais bon, et puis on va saupoudrer de prières, comme ça le Seigneur va bénir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, le premier, je suis coupable. Et Dieu dit, non, crois-moi, je sais comment est-ce que les églises naissent. C'est moi qui ai inventé l'église. C'est compliqué à croire pour toi, mais c'est vrai. Et c'est moi qui l'ai bâti aussi, parenthèse. Alors, tu suis les instructions et ça va le faire. Amen. Seigneur, merci parce que tu es plein d'humour, tu es patient surtout avec nous. Tu nous invites à rentrer dans ta mission, dans ta moisson. Tu nous invites à nous laisser surprendre à nouveau par la réalité de quelque chose qui est folie au monde. Le salut. Et Seigneur, s'il nous faut être fous, nous voulons l'être. Nous voulons que nos traditions et nos méthodes soient complètement soumises à l'autorité fonctionnelle de ta parole. Alors apprends-nous. Apprends-nous à persévérer en église, dans la prière. Apprends-nous à toujours mettre en lumière nos vies, nos relations. Apprends-nous à toujours remettre nos méthodes en question en nous disant, est-ce que c'est vraiment comme ça que nous pouvons être totalement engagés à tes côtés? Et enfin, aide-nous à créer de l'espace au milieu de nous pour être des communautés accueillantes qui se réjouissent parce que ta grâce est irrésistible. Parce que quand tu mets ta main sur un pec, eh bien on sait qu'il est gagné parce que c'est toi qui attires les hommes à toi. Et dans tout cela, Seigneur, on t'observe agir encore et encore et on te bénit parce que c'est toi qui bâtis. Et que nous, simplement, on est sur le côté et on applaudit. Le grand implanteur, le grand bâtisseur, celui qui tient l'histoire du monde dans sa main.